Vendredi 17 juillet, salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort pour fêter le week-end qui s'en vient. Grosse pluie, tonnerre à Montréal, les gros éclairs blancs, là, genre vers 5h le matin, c'était spécial. Là, il pleut encore, élevé. Mais je pense qu'il va faire beau en fin de semaine, me semble, il annonce là, pour l'ensemble, Québec-Montréal, il annonce beau. Ça fait que, est-ce que je sortirai de la ville? C'est pas clair. Alors, je commence avec une anecdote très hot, très savoureuse. Hier, je pense à un gag. Moi, j'ai une habitude, c'est que j'essaye souvent des gags sur Facebook. Puis après 30 minutes, tu le sais si c'est plate ou si c'est bon. T'sais. Puis tu l'enlèves ou ben, tu le laisses, c'est comme tu veux. Mais évidemment, moi, je suis pas du genre, ces médias sociaux, à être zéro polarisé, controversé, patente. Ce que j'ai à dire, vous le savez, je le dis dans mes podcasts. Là, je dis ce que je pense. Mais pour le reste, écoute, c'est tout et n'importe quoi. Puis, même quand plein de monde trouve que c'est intéressant ce que tu fais, il s'agit qu'il y en ait deux, trois qui sont t'offensés. Puis là, tu peux être dans le trouble. Puis c'est comme, il donne quoi ce trouble-là? J'ai déjà parlé de ça d'ailleurs. Qu'est-ce que ça donne de commencer à vouloir faire son smat, à dire, ah, moi, vous le dire, c'est médias sociaux, zéro. Faut que je choisisse le médium qui te convient. Puis moi, l'audio puis le vidéo, ça me convient. Puis si vous me suivez, c'est parce qu'à quelque part, ça vous intéresse globalement. Fait que, tu sais, c'est une politique que je suis depuis longtemps. Mais hier, je pense à un crime de bon gag qui va comme suit. Quel monde de fou, je m'ennuie de l'État islamique. C'était vraiment le bon vieux temps. Puis, je trouve que c'est un excellent gag. Puis Richard Martineau le reprend. Il le reprend, il écrit LOL, LOL, donc trouve ça drôle. T'sais, il dit vu sur le Facebook de Marc Boilard. Puis il écrit ma phrase. Puis là, ça part, tu sais, mais comme de raison. Après, mettons, une heure, quelqu'un me dit ça, tu sais, je vais voir, il y avait, tu sais. 80% des... Tu sais, parce que les likes sur Facebook, tu leur donnes une personnalité. Là, ça peut être un pouce, ça peut être un rire, tout ça. Il y avait comme... C'était écrasant comment le monde trouvait ça drôle, mais il y en avait qui trouvaient pas ça drôle. Genre, il faut pas faire des jokes d'État islamique et tout. Ça fait que, bref, je trouve ça juste rigolo que... Même un gag... Tu sais, je veux dire, qui peut penser que moi ou n'importe qui s'ennuie réellement de l'État islamique, il faut le faire. Mais bref, ça fait que c'est pour vous montrer que... C'est touché, mais il y a des contextes dans lesquels on peut être touché. La place où on peut être le plus cru, c'est bien entendu quand t'es sur scène, dans un environnement fermé, avec du monde qui ont payé. Mais après ça, un podcast, je vais vous dire, c'est pas mal la place où on peut avoir le plus de liberté. Puis en plus, on a le temps d'exprimer ses idées, etc. Alors, voilà. Donc, c'est une petite anecdote que je trouve rigolote. Maintenant, mon sujet aujourd'hui, c'est un article de Patrick White, qui est dans la presse plus opinion et qui s'écrit et qui et dit « Les médias doivent se réinventer ». Patrick White, c'est un gars qui a toujours été dans le journalisme depuis toujours, depuis que je le connais. C'était, je crois, le rédacteur en chef du Huffington Québec, journal qui existe encore d'ailleurs. C'est que moi, je le connaissais pas d'avant, mais dans le temps, je me souviens, il avait approché du monde, puis j'avais parlé un petit peu avec lui concernant écrire des articles, parce que leur modèle d'affaires, eux autres, c'est que personne n'était payé, ou était payé très peu, ou je sais plus trop, en tout cas, ça avait fait une certaine controverse, mais c'est de même que le Huffington Post a poussé, parce que c'est un journal gratuit qui fallait juste vendre de la pub. Lui, je pense qu'évidemment, il était payé par le Huffington Post des États-Unis, là. Mais peu importe. Il a toujours été dans ce domaine-là, puis aujourd'hui, maintenant, il est rendu professeur de journalisme à l'École des médias de l'UQAM, tu sais. Puis c'est quelqu'un, là, c'est quelqu'un qui est très structuré, puis ça a l'air d'être un bon Jack, là. Je le connais pas perso, mais ce qu'il fait, ça a tout le temps de la lupe. Là, il écrit une lettre qui s'appelle, comme je vous dis, « Les médias doivent se réinventer ». Et là, moi, évidemment, je rebondis là-dessus, parce que vous savez que c'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai toujours été dans les médias, direct dedans ou juste à côté, bon, blablabla. Et il traite, finalement, de deux des trois points qui, pour moi, sont « C'est quoi faire une activité médiatique ?» Puis il passe les deux points, les deux premiers points de façon très claire. Puis c'est très intéressant. Je souscris à tout ce qu'il dit. Mais il oublie un truc qui, d'après moi, fait vraiment partie du challenge des médias. J'en parle de temps en temps, mais là, j'en fais un épisode complet. Donc, pour faire une histoire courte, les trois pivots, quand vient le temps de faire quelque chose de médiatique, c'est la plateforme, donc c'est le journal ou la radio dans laquelle vous évoluez, le poste de TV, le podcast, donc il y a une plateforme, qui vient avec un brand d'ailleurs, on pourrait quasiment rajouter un quatrième poteau, donc il y a une marque, le devoir, ça dit quelque chose qui est complètement différent de Ricochet ou d'un blog là, de Tizoun, bon. Après ça, il y a un contenu, Alors, évidemment, il souligne très judicieusement qu'il y a des contenus qu'il va falloir qu'ils s'adressent plus aux jeunes. Si les contenus sont toujours juste ce que moi je déplore énormément au FM 93, c'est-à-dire, ah tiens, aujourd'hui, parlons donc encore du tramway, mais surprenez-vous pas si les 25-54 ne sont pas présents. C'est des sujets de vieux total. Je te dis pas que ça intéresse techniquement juste les vieux, mais médiatiquement, ça se répercute pas auprès des intérêts des jeunes. Désolé, mais c'est assez flagrant. Mais il y a un troisième poteau à tout ça, qui est la personne qui porte le contenu. Quand tu lis l'article de Patrick, c'est comme si tout est désincarné. C'est-à-dire que le journaliste, que ce soit lui ou un autre, on s'en fout. L'animateur, ben écoute, manifestement, on le change. L'important, c'est d'être à l'antenne de TVA, tu sais, puis etc. Puis, et c'est ce bout-là, moi, je pense, où la réinvention là, est la plus palpable, puis c'est le plus enlisé dans une culture d'entreprise d'un autre monde, c'est-à-dire d'un ancien monde. C'est-à-dire que moi, je réalise que les médias d'information, là, je vais vraiment étayer ma théorie très précisément, les médias d'information n'ont pas de divertissement. Eux autres, ils ont très bien compris. Mais les médias d'information ont une culture journalistique à l'excès. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est des journalistes que ça prend, des profils de journalistes, pour pouvoir avoir la crédibilité puis le travail pour rejoindre les gens. C'est totalement faux. C'est-à-dire que si t'es un journaliste, à quelque part, t'es un peu un nerd, t'es un peu un crack de détails, etc. T'es pas en soi un monstre de charisme qui va connecter avec un large auditoire. Dans ta façon d'écrire, si t'es un journaliste à l'écrit, dans un journal, et de t'exprimer ou d'être, tout simplement, si t'es en électronique, donc à la télé et à la radio. Or, pour les gens, là, je suis désolé, là, mais pour l'écrasante majorité des gens, le porteur du message, là, on va faire de la com, puis c'est le sujet que je connais, le porteur du message, là, puis le non-dit, puis le non-verbal, puis le, tout ce que vous voulez, là, le sous-texte, j'ai parlé de ça cette semaine, entre autres, c'est super important. Ça définit vraiment qui on écoute, qui on n'écoute pas, vers qui on est attiré, etc. C'est toutes des notions, quand je lis différents trucs, dont l'article de Patrick White aujourd'hui, qui sont complètement enlevés. C'est pas dans l'équation. Puis je suis pas surpris, parce que Patrick est journaliste, il est dans l'univers du journalisme, il est dans la culture du journalisme. Puis on a l'impression que l'information, c'est ça qui est le plus important. Moi, je vais vous faire part d'une anecdote. Quand j'étais au FM 93, à un moment donné, on était short staff une émission. C'était pas moi d'abord qui était l'animateur, mais on m'avait rapporté cette affaire-là. Puis Alexandre, qui était à la mise en onde, devait répondre au téléphone, puis il y a un recherchiste qui normalement faisait ça qui n'était pas là. Et là, il s'est fait lessiver, puis il s'est fait engueuler parce qu'il est arrivé une noyade à Limoilou, puis il y a des gens qui était témoin de cette affaire-là, qui avait appelé, puis là, ça répondait pas, la ligne était occupée, telle affaire. Et là, ça a été comme genre, hey, ça, c'est épouvantable. Quand les gens nous appellent pour nous rapporter un fait divers de nature X, Y, Z, où une vie est en jeu ou peu importe, mais ça s'appelle un fait divers, que vous le vouliez ou non, il faut là vraiment qu'on soit, c'est comme archi-prioritaire, etc. Puis je me disais, quel ancien monde de penser là, que c'est comme branle-bas de combat, mettez toutes les ressources qu'il faut, en cas, ça arrive pas à chaque minute, là, ça arrive une fois ou deux semaines, que quelqu'un appellerait parce que là, il y a peut-être une noyade en cours dans une piscine à Limoilou. C'est toute la notion de premier sur la nouvelle, là, sérieux, là, c'est « who cares ». Premier, sa nouvelle, ça s'appelle le téléphone. Puis ça, Patrick, il dit très bien dans son article, il faut que tout converge vers la mobilité. Super, bien d'accord avec ça. Mais après ça, ce qui fait qu'un journal développe une marque, c'est comme n'importe quoi, c'est comme Gucci, c'est comme Cineplex Odéon, je m'en fous. C'est qu'à un moment donné, il faut que ça résonne quelque chose chez le client. Il faut que le client s'attache à quelque chose. Ça fait que ça peut être très rationnel, cérébral. Un client du devoir, c'est pas un client du Journal de Montréal, mais c'est pas exempt de ça. Personne n'est à l'abri de ça. C'est être un être humain que de vibrer pour quelque chose qui est un ensemble de facteurs qui nous rejoignent. Puis tu peux pas éluder le porteur du ballon. Ça a juste aucun sens. Ça fait qu'évidemment, si tu fais un journalisme à la Radio-Canada, puis si toi, t'es engagé pour vraiment rapporter des nouvelles, etc., effectivement, du jour au lendemain, tu peux t'en aller, quelqu'un va prendre ta job, c'est triste à dire, mais ça va être exactement le même rendu. Mais dans tous ces médias-là, il y a des Yves Boisvert de ce monde, des Marie-Claude Lortie, des Mathieu Bock-Côté ou autres, qui deviennent à ce moment-là des gens qui émettent des opinions, puis ces opinions-là colorent la marque, puis la couleur de la marque, fait en sorte qu'il y a des gens qui y vont plus ou moins. Donc, si vous voulez être sans odeur, sans saveur, ça, c'est peut-être votre modèle d'affaires, ça ne me regarde pas. Mais s'il y a une révolution dans les médias à faire, moi, je vous le dis, là, c'est les médias de divertissement sont beaucoup moins atteints. Regardez Occupation Double, je suis désolé, mais ça clenche pareil dans une station qui n'arrache depuis sa naissance ou presque, c'est-à-dire V. Ils sont dans le divertissement, ils reçoivent les jeunes, ils ont fait des offensives agressives au niveau des plateformes numériques, etc. Donc, c'est possible. Si vous êtes dans l'information, moi, où je vois qu'il y a une réinvention à faire que je sens très peu, ben c'est qui porte votre ballon? Qui porte votre ballon? Puis qu'il y ait des journalistes autour de la table, qu'il y ait des journalistes au journal qui travaillent des dossiers en profondeur, etc. Super! C'est même déplorable qu'on n'ait plus l'argent pour faire un journaliste qui va dans le fond d'un truc, etc. Ça fait partie, c'est une perte pour la société au grand complet. Donc, moi, il n'y a rien que je m'oppose dans la vision de Patrick White dans son article. Ça a tout du sens. C'est l'œuvre d'un expert, là. Mais ce point-là est complètement éludé. Puis je le dis. Puis évidemment que je parle pour ma propre paroisse parce que je suis en radio parler depuis plus de 6 ans et je suis un électron libre puis un peu un profil extraterrestre parce que j'arrive pas du journalisme. J'arrive de la variété. Ceci étant dit, si vous voulez des titres, je suis avocat. Ça fait que moi, le titre de journaliste, je vais vous dire, me fait pas peur tant que ça, là. Mais au-delà de ça, c'est justement le fait que je sois avocat n'a rien à voir avec la qualité puis l'impact en animation que je fais quand on me donne un micro, soit de ligne ouverte ou même d'animer le retour ou autre. Puis je l'ai tout le temps bien senti qu'à quelque part, c'est déstabilisant puis qu'on fait comme, ouais, c'est ça, ouais, mais lui, tu sais, il est pas journaliste. On me l'a déjà dit, d'ailleurs. Un boss m'avait littéralement dit « Ouais, mais toi, ton problème, c'est que t'es pas journaliste. » C'était pas un problème dans la bouche du gars en question, mais je sais que dans les instances en haut, c'est une question de culture d'entreprise. Puis moi, je répète que si vous voulez moderniser l'accès à l'information, il va falloir moderniser le choix des contenus, puis il va falloir moderniser... Enfin, d'abord, la plateforme, donc il faut que le mobile soit mobile first. Patrick, 100% raison, je souscris. Mais il va falloir aussi... que les contenus soient beaucoup plus variés, beaucoup, beaucoup plus variés, puis collés à c'est quoi qui intéresse une clientèle plus jeune, parce que sinon, votre déclin, il va être perpétuel jusqu'à temps que ce soit ciao-bye. Et finalement, il faut vraiment qu'il y ait un coup de balai puis un bout d'audace qui soit refaite quant à savoir c'est qui porte le ballon. C'est qui est en train de nous parler des nouvelles qui, elles, peuvent être transportées aussi par des gens qui sont des journalistes purs et durs. Donc, un animateur funky entouré de gens qui sont des experts dans le monde puis dans la fonction journalistique, moi, je pense que c'est winner. Mais je sens que l'électronique ne sont pas rendus là quand vient le temps de parler d'information. Et je sens que les journaux sont un peu plus sur cette piste-là, mais qui ont un problème de monétisation. Mais dans tous les cas, il va falloir que ça « rock ». Il va falloir que ça rock, je suis désolé. Puis ceux qui trouvent que tout le monde en parle, c'est de l'infotainment, puis c'est comme moitié ici. Ben justement, c'est pour ça que ça fait 1 million à chaque épisode. C'est pour ça que ça dure 13 ans. Je pense que ça revient pour une 13e ou 14e année. C'est exactement pour ça. Parce qu'à quelque part, tu laisses la chance à du monde de venir porter leur contenu. Puis de l'autre, ben t'as un Danny Turcotte qui vient dépeigner ça un peu, etc. J'ai toujours dit que la seule raison pour laquelle actuellement on n'a aucune ou à peu près aucune émission de littérature, c'est parce que c'est tout le temps porté par des auteurs qui sont par définition des gens très straight, qui sont moyennement colorés, etc., mais qui savent écrire, qui ont lu des livres. Ah, bravo! Mais je veux dire, des animateurs rigolos qui lisent des livres, puis qui sont... Puis quand je dis rigolo, ça veut pas dire d'être drôle, t'es pas obligé d'être drôle, ça n'a rien à voir. Mais c'est mortel de voir à quel point, tout à coup, quelque chose qui est aussi répandu et important que la lecture, on ne soit pas capable d'avoir une émission de littérature. On ne peut pas avoir une émission qui fait comme « Hey, checkez ça, comment ça marche. » Cette semaine, on a 3 invités, un humoriste, une chanteuse, ils viennent nous dire « C'est quoi le dernier livre? » On en débat. Comprends-tu? Il y a des formules, il y en a 1000. Mais c'est comme « Non, là, il va falloir que ça soit... » Puis c'est toujours un problème de chasse gardée. C'est tout le temps ça qui fait qu'une culture d'entreprise à mener s'enferme sur elle-même. Mais ça, faut mettre ça très, très clair. Je me souviens encore de la discussion que j'avais eue. Je m'en allais en Floride. C'était un peu après le 11 septembre. Puis on parlait avec la fille qui était au guichet, là, littéralement. On était en train d'enregistrer nos bagages. Puis elle nous fait un beau grand discours en disant, vous savez, l'avion, là, peu importe ce qui arrive, ça ne pourra jamais être aussi abordable que les autres moyens de transport. L'avion, c'est prestigieux. Puis là, elle était là dans son grand discours. Puis je pense qu'un mois après, on entendait dire que il y avait des coupures de poste à l'infini à Air Canada. Ben c'est ça. C'est ça. T'sais, pendant qu'on prend des grands discours, parce que nous autres, on est sûr que nous autres, notre business, puis blablabla. Ça fait que se réinventer, je m'excuse, mais ça vient avec une touche d'humilité. Pas de farce, là. Quand on dit qu'il faut se réinventer, tu sais, ça vient avec une touche d'humilité, de un. Deuxièmement, ça vient avec un entrepreneurship. Il faut qu'à l'interne, il y ait du monde qui ait un peu de courage puis d'audace pour n'importe quoi, même les artistes. Les artistes, là, on leur a tout dit, ah ben réinventez-vous, là. Puis il y en a beaucoup qui ont été révoltés contre ça. Martin Petit, il a écrit un grand texte. Il écrit tellement bien, Martin, en plus, c'était hyper clair. Qui disait, tu sais ça, réinventez-vous, là, puis c'est ça. Tu sais, c'est comme tout à coup, là, vous autres, votre métier, c'est de faire rire, mais là, soyez dans des conditions impossibles pour faire rire. Il avait raison, il avait raison. Mais néanmoins, ça reste ça qu'il faut faire pareil. Parce que le lendemain est complètement incertain au moment où on se parle. Je parlais de ça hier avec Red Fred. On est allé, Red Fred, qui était mon invité à la discussion avec un expert. Là. Si vous voulez savoir c'est qui, vous irez sur mon LinkedIn. com/Marc Boilard, là, je fais des entrevues chaque semaine avec des experts dans plein de domaines, puis c'est Frédéric Napki, son vrai nom. Puis lui, je voyais qu'il était plus inquiet que d'habitude, puis qu'il disait, crème, c'est quoi le lendemain? C'est quoi le lendemain? Puis il a raison, qui peut dire c'est quoi le lendemain? Là, on roule sur un genre de respirateur pas clair, mais tabarouette. Ça fait qu'effectivement, se réinventer, en tout cas, quelqu'un peut choisir le statu quo en se disant, ah, moi, je pense que de même, c'est correct, puis ça va repartir, mais ça va repartir dans quel sens, puis dans quel ordre, puis pour aboutir où? T'sais, on le sait pas. On le sait pas. Ça fait que, bref, tout ça pour dire que mon résumé, c'est que la vie médiatique, moi, je pense qu'elle va être encore, elle est hyper importante. À vrai dire, même à cause d'Internet, elle est bordélique. Autre sujet. Mais, dans l'ordre, vous irez voir là, l'article là, de Patrick White, c'est sorti hier, donc le 16 juillet dans la presse. Et puis, il fait le tour vraiment des enjeux, etc. C'est top. Je trouve juste qu'il manque un truc qui, pour moi, fait une énorme différence dans la réinvention. J'ai donc la misère avec ce verbe-là, ce mot-là qui n'est même pas compliqué. Réinvention, c'est ça. C'est vraiment les porteurs de ballon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir vraiment que tout le monde dans l'information se pose la question qui amène de l'eau au moulin? C'est qui fait en sorte qu'on a un lectorat qui monte? Puis l'autre affaire, c'est qu'il va falloir que le monde arrête aussi de parler juste au même monde. L'important, c'est d'amener du nouveau monde. En radio, c'est pas d'amener du monde qui écoute déjà la radio puis de dire « il était à droite, on va l'amener à gauche ». Qui n'écoute pas la radio qui va revenir à la radio? C'est ça le vrai défi. Qui actuellement lit pas les journaux, s'intéresse pas à l'actualité? Ces gens-là, il faut être capable de les ramener. Puis là, à un moment donné, tu les ramènes, puis une fois qu'ils ont le nez dans un journal qui est sur leur téléphone, à côté de leur piscine avec une bière, ben ils se mettent à dire, sans s'en rendre compte, « oups, c'est intéressant ». Moi, je me souviens, mon premier livre, « Le Code Boilard du vrai gars », il y a plein de gars qui me disaient « c'est le seul livre que j'ai lu ». Fait que tu fais comme, est-ce que je devrais dire, ah, c'est épouvantable, le monde lit pas, c'est terrible, c'est zéro, ou tu te réjouis de faire, ben coudonc, il y a un livre. Et peut-être que ça lui a donné le goût d'aller ailleurs. Peut-être qu'il a fait comme, ah, tu sais quoi, je sais pas, il y avait peut-être une espèce de sacralisation. Peut-être que pour une clientèle, un livre, c'est une affaire, pour une autre clientèle, pour une gang plus instruite, je sais pas quoi. Moi, c'était un livre rigolo, comprends-tu, qui parlait d'affaires de gars. Ça fait que, hop, soudainement, bang. Moi, quelqu'un qui dit « j'ai acheté un livre de recettes », dans ma tête, à moi, il a acheté un livre. Puis, je vais vous dire de quoi, ma tante Colette, à un moment donné, je demande à maman, puis ça fait très longtemps, là, j'avais comme 20 ans, puis je dis, ma tante Colette, c'était la femme du frère de mon père. C'est que mon père, il était 6 enfants, puis ils sont tous mariés, puis mon oncle Laurent avait une femme qui était Colette. Puis je m'entendais bien avec, tu sais. Puis je savais qu'elle faisait des petits jobs, puis tu sais, il vivait maigre, puis il était pas allé à l'école. Puis à un moment donné, je disais, ma tante Colette, c'est une lectrice. Parce que je la voyais jaser, puis tout. Elle dit, ah oui, ma tante Colette, elle doit lire un livre par semaine. Elle est tout le temps en train de lire. Mais j'ai dit, tabarouette, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je comprends qu'elle venait d'un milieu modeste, etc., puis que mon oncle Laurent n'était pas allé à l'école, puis tout ça. J'ai compris entre les lignes, là, mais je voyais quand elle te parlait, il y a quelque chose. Ben c'était une lectrice. Et voilà. Ça fait que de faire lire éco-vedette à quelqu'un, moi, je m'en claque, de faire lire n'importe quoi. Il y avait eu un gros tollé à un moment donné parce que le thème d'un salon du livre à Montréal, c'était les livres de cuisine. Puis j'étais, ah, c'est épouvantable. Ben non, c'est pas épouvantable. Puis l'an prochain, ce sera les essais de Montaigne. Mais cette année, c'est des livres que les gens achètent. Puis s'ils achètent un livre, ils sont susceptibles d'en acheter de d'autres. Ça fait que ça, c'est, ça n'oppose pas les choses. Sur ce, un bon week-end. Salut!